Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier sur Radio Boomerang 89.7 FM.
Bonjour à toutes et à tous, Jeanne Boursier pour Chronique d'un siècle sur Radio Boomerang 89.7 FM. Et toujours, pour partager vos idées, chroniquedunsiècle.com, mon blog.
Misogynie. N'y a pas, le sage avait raison. Il y a les emmerdantes, on en trouve à foison. En foule, elle se presse. Il y a les emmerdeuses, un peu plus raffinées. Et puis très nettement, au-dessus du panier, y a les emmerderesses. La mienne à elle seule, surtout surenchérie, elle relève à la fois des trois catégories. Véritable prodige, emmerdante, emmerdeuse, emmerderesse tout. Elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout. Elle m'emmerde, vous dis-je. Mon Dieu, pardonnez-moi ces propos bien amers. Elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde, elle m'emmerde. Elle abuse, elle a dit, je. Elle m'emmerde et je regrette mes belles amours avec la petite enfant de Marie que m'a soufflé l'évêque. Elle m'emmerde, vous dit, je. Elle m'emmerde, elle m'emmerde et m'oblige à me curer les ongles avant de confirmer son cul. Or c'est pas calipige. Et la charité seule pousse ma main résignée vers ce cul rabat-joie, conique, renfrogné. Elle m'emmerde, vous dit, je. Elle m'emmerde, elle m'emmerde. Je le répète, et quand elle me tape sur le ventre, elle garde ses gants, et ça me désoblige. Outre que ça dénote un grand manque de tact, ça ne favorise pas tellement le contact. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde, elle m'emmerde, quand je tombe à genoux pour certaines dévotions qui sont bien de chez nous et qui donnent le vertige. Croyant l'heure venue de chanter le credo, elle m'ouvre tout grand son missel sur le dos. Elle m'emmerde, vous dis-je. Elle m'emmerde, elle m'emmerde à la fornication. Elle s'emmerde avec ostentation. Elle s'emmerde, vous dis-je. Au lieu de s'écrier encore hardi, hardi, elle déclame du Claudel, j'ai bien dit. Alors ça, ça me fige. Elle m'emmerde, elle m'emmerde. J'admets que ce Claudel soit un homme de génie, un poète immortel. Je reconnais son prestige. Mais qu'on aille chercher dedans son œuvre pie un aphrodisiaque, non ça c'est de l'utopie. Elle m'emmerde, vous dit, je. Elle m'emmerde, vous dit, je.
Les néo-féministes ont dû mettre cette chanson de Brassens à l'index. Ne nous voilons pas la face, nous sommes dans l'ère du politiquement correct et la moindre grivoiserie prend les proportions d'un harcèlement sexuel grave. Toutes ces femmes en mal de reconnaissance s'évertuent à nous faire croire que les hommes, tous plus salaces les uns que les autres, ne pensent qu'à nous étendre sur le sol, un canapé ou un bureau pour assurer leur pulsion patriarcale. en écoutant les Chiappa, Berger, Rousseau, Autain et autres furieuses, j'ai peur pour la jeunesse qui ne peut que souffrir de leur discours anti-homme, de l'image brutale du désir qu'elle donne à un sourire, à un regard, du mur qu'elle dresse entre les femmes et les hommes. La femme voit en l'homme le prédateur, l'homme voit en la femme l'accusatrice. Comment construire une société épanouie et heureuse sur des bases sapées par l'incompréhension du féminisme ? Un petit intermède avec Georges Brassens et le poème d'Antoine Paul, Les Passantes, poème qui ne pourrait être écrit aujourd'hui si l'on s'en tient aux discours officiels.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais, à celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux, charmants paysages, font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivant des heures grises près d'un être trop différent vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, au cœur qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revus. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.
Avec ces néo-féministes, l'on est bien loin des idéaux de ces femmes qui se battirent jusqu'à la mort. Je pense ainsi à Olympe de Gouges, qui en 1791 écrivait les droits de la femme en réponse à la Déclaration des droits de l'homme. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Elle réclamait même dans cette déclaration le droit de mourir sur l'échafaud au même titre qu'un homme. Elle fut d'ailleurs exaucée en 1793. Il ne faut pas croire que les femmes ne se sont jamais battues ou imposées. N'oublions pas que certaines sociétés étaient matriarcales. Cette manie de nous faire croire que les femmes ont toujours été sous la botte de l'homme a tendance à m'exaspérer. De même, cette pensée fort à la mode qui consiste à croire que le catholicisme est la religion du patriarcat, du fait que la femme est considérée comme mère. Mais la mère représente l'amour inconditionnel. Elle est celle qui donne la vie car elle vit pour l'autre. Elle est donc l'incarnation parfaite de la divinité. Je rappelle aussi que l'essentiel des cathédrales est consacré à Notre-Dame. Donc les fémènes se sont trompés de cible en s'attaquant au christianisme. Je vous laisse écouter le chant grégorien « Salve Regina ».
Salve Regina, Mater Misericordiae, Cielo, es pes nos. ut digni officiamur promissionibus Christi.
Des travaux déjà anciens d'historiens ont montré que les femmes avaient plus de droits du XIIe au XIVe siècle que dans les siècles suivants. On les trouve dans la médecine, l'éducation, leur majorité était à 12 ans alors que les garçons n'étaient qu'à 14 ans. C'est la bourgeoisie qui, à partir de la Renaissance, mettra la femme sous tutelle, ce qui n'empêcha nullement une réflexion menée par des femmes comme par des hommes sur l'éducation des femmes fort négligée par la bourgeoisie. Dès le XVIIe siècle, Fénelon, entre autres, s'interroge sur la négligence de l'éducation féminine. Ces idées seront reprises au XVIIIe siècle par Madame de Lambert, qui publie en 1728 « Avis d'une mère à sa fille ». Rien n'est donc si mal entendu que l'éducation qu'on donne aux jeunes personnes. On les destine à plaire, on ne leur donne des leçons que pour les agréments, on fortifie leur amour propre, on les livre à la mollesse, au monde et aux fausses opinions. On ne leur donne jamais de leçons de vertu ni de force. Il y a une injustice, ou plutôt une folie à croire qu'une pareille éducation ne tourne pas contre elle. 30 ans plus tard, en 1759, D'Alembert défendra aussi dans sa lettre à Rousseau l'importance de l'éducation des femmes. Enfin, l'éducation funeste, je dirais presque meurtrière que nous leur prescrivons sans leur permettre d'en avoir d'autres, éducation où elles apprennent presque uniquement à se contrefaire sans cesse, à n'avoir pas un sentiment qu'elles n'étouffent, une opinion qu'elles ne cachent, une pensée qu'elles ne déguisent. Nous traitons la nature en elles comme nous la traitons dans nos jardins. Nous cherchons à l'orner en l'étouffant. Mais quand la lumière sera plus libre de se répandre, plus étendue et plus égale, nous en sentirons alors les effets bienfaisants. Nous cesserons de tenir les femmes sous le joug et dans l'ignorance, et elles de séduire, de tromper, de gouverner leur maître. L'amour sera pour l'or entre les deux sexes, ce que l'amitié la plus douce et la plus vraie est entre les hommes vertueux. Ou plutôt ce sera un sentiment plus délicieux encore, le complément et la perfection de l'amitié, sentiment qui, dans l'intention de la nature, devait nous rendre heureux et que pour notre malheur nous avons su altérer et corrompre. La Révolution française aussi, en 1789, verra la requête des dames de l'Assemblée. Le sexe féminin jouira toujours de la même liberté, des mêmes avantages, des mêmes droits et des mêmes honneurs que le sexe masculin. Toutes les personnes du sexe féminin pourront être admises indistinctement aux assemblées de districts et de départements, élevées aux charges municipales et même députées à l'Assemblée nationale lorsqu'elles auront les qualités exigées par la loi des élections. Elles pourront aussi être promues aux offices de magistrature. Il en sera de même de tous les emplois, récompenses et dignités militaires. J'évoquais au début de l'émission Olympe de Gouges, mais elle ne fut pas la seule à se battre et à finir sur l'échafaud. Entre des centaines de femmes, je nommerai Lucille Desmoulins, Madame Roland. Un petit intermède avec une chanson de Daniel Balavoine en hommage au courage des femmes.
Quand les canons résonnent, comme pour annoncer le mauvais temps, les femmes frissonnent et sous leurs jupons cachent les enfants. Elles prient la madone, blessent leurs genoux en suppliant. Mais qu'est-ce qu'elles leur donnent en échange de leur dévouement? couronne. Elles ont la peur sur leur visage ruisselant, espérant la maldonne. Elles frappent leur poitrine en défilant, pieusement questionnent. Est-ce que disparu veut dire vivant? Faut-il qu'elles pardonnent pour croire que leurs morts ne sont qu'absents?
Ces femmes en parallèle avec nos néo-féministes, il est évident que nos contemporaines paraissent bien fades, comme dirait Musset, des roses du Bengale, sans épines et sans parfum. Les féministes du XIXe siècle, comme Claire Desmarres, André Léo, Victoire Daubier, Jenny Déricourt, Sophie Volquin et tant d'autres, ne se sont pas battues pour que les femmes puissent marcher dans la rue sans qu'aucun homme ne leur sourie, ne les regarde, ne les suive. Ça, elles savaient le gérer. Elles n'avaient pas besoin de lois ni de ministres pleurnichantes. Non, ces femmes se sont battues pour leurs droits. Et l'avertissement au lecteur de Jenny Déricourt dans La femme affranchie est très clair. Mon but est de prouver que la femme a les mêmes droits que l'homme, de réclamer en conséquence son émancipation, enfin d'indiquer aux femmes qui partagent ma manière de voir, les principales mesures qu'elles ont à prendre pour obtenir justice. Le mot « émancipation » prétend à l'équivoque, fixons-en d'abord le sens. Émanciper la femme, ce n'est pas lui reconnaître le droit d'user et d'abuser de l'amour. Cette émancipation-là n'est que l'esclavage des passions, l'exploitation de la beauté et de la jeunesse de la femme par l'homme, l'exploitation de l'homme par la femme pour sa fortune ou son crédit. Émanciper la femme, c'est la reconnaître et la déclarer libre, l'égale de l'homme, devant la loi sociale et morale et devant le travail. À l'heure qu'il est, sur toute la surface du globe, la femme, sur certains rapports, n'est pas soumise à la même loi morale que l'homme. Sa chasteté est livrée presque sans défense aux passions brutales de l'autre sexe, et elle subit souvent seule les conséquences d'une faute commise à deux. Dans le mariage, la femme est serve. Devant l'instruction nationale, elle est sacrifiée. Devant le travail, elle est infériorisée. Civilement, elle est mineure. Politiquement, elle n'existe pas. Elle n'est l'égale de l'homme que quand il s'agit d'être punie et de payer les impôts. Je revendique le droit de la femme parce qu'il est temps de faire honte au XIXe siècle de son coupable déni de justice envers la moitié de l'espèce humaine. Ce texte fut écrit en 1860. Je tiens à préciser que la loi morale dont parle Jenny d'Héricourt se réfère aux mères célibataires et non pas à quelques plaisanteries grivoises de collègues de bureau. Hénaud furieuse de continuer à s'exciter. Ainsi, une affiche pour un festival de BD a été changée d'urgence car le décolleté de la femme était une atteinte à la dignité de la femme. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, s'écriait Tartuffe devant le décolleté généreux de Dorine. Serions-nous à l'air des Tartuffes ? Tout porte à le croire lorsque des mères allaitant leur nouveau-né sont prises à partie par un public pudibond. En revanche, quand il s'agit d'interdire les publicités dans lesquelles la femme est objet de désir, les politiques ne montent pas à la tribune pour rappeler que l'orgasme de la mangeuse de chocolat ou de la buveuse de café est une atteinte à l'image féminine. Les derniers délires de ces femmes qui se pensent révolutionnaires ne font que confirmer ce sentiment de mépris que j'éprouve pour leur pseudo-combat. Elles jappent, mais sont incapables de mordre. Je ne résiste pas à partager avec vous ces gesticulations ridicules. Je suis tombée par hasard sur une vidéo dans laquelle Manon Aubry, la députée européenne, nous explique que la micro-cravate est patriarcale et sexiste, en s'appliquant à passer ce malheureux micro sous sa robe pour le faire ressortir par son décolleté. Pour moi, il suffisait de l'accrocher directement au décolleté, mais je ne suis pas une députée européenne. Non contente de cette démonstration, elle s'attaque d'abord à la cravate, puis à la veste. Elle n'a donc jamais vu de défilé de mode. Après cette époustouflante vidéo, il a fallu que j'écoute un podcast d'une gamine qui estime, soutenue par les soi-disant féministes, que la position gynécologique pour l'accouchement est patriarcale. Oui, oui, ce sont les médecins, donc des hommes, qui ont imposé à leurs malheureuses victimes cette torture. Avant qu'apparaissent ces salauds de gynéco, les femmes se débrouillaient très bien entre elles. Elles prenaient la position qu'elles souhaitaient et surtout, elles pouvaient être mobiles. Il est vrai que c'est à ce moment précis que l'on a envie de danser la samba. Un petit intermède pour aider les femmes à accoucher en dansant. La Sampa de Richard Gottener.
We'll be right back. à Saint-Tropez.
Non mais soyons sérieuses, se rend-elle compte des énormités qu'elle débite ? Doit-on rappeler à cette donzelle que beaucoup de femmes souffraient et mouraient lors de leurs accouchements à domicile et que les bébés ne survivaient pas toujours à cette épreuve ? J'ai eu 2 enfants et sans mon gynécologue, tous 2 seraient morts à la naissance, alors que cette petite péronnelle évite de faire la publicité pour la fermeture des maternités. Évidemment qu'il existe une histoire de l'accouchement, évidemment qu'il fut d'abord entre les mains des accoucheuses. Souvenez-vous que la mère de Socrate était sage-femme et que la maïeutique, du nom de Maïa, la déesse qui veillait aux accouchements, était pour Socrate la technique pour accoucher l'esprit. Dans les civilisations anciennes, les femmes accouchaient accroupies ou debout. Et c'est à ces positions que certaines veulent revenir aujourd'hui, en soutenant que les hommes ont bafoué cette liberté féminine. Je rappellerai juste le nom parmi d'autres d'Angélique de Coudray, qui au XVIIIe siècle enseigna l'art des accouchements, qui ouvrit dans beaucoup de grandes villes des maisons de maternité, ancêtre des maternités, et qui inventa un mannequin grandeur nature, fait de bois, de carton, de coton et de tissu, reproduisant le bassin d'une femme en couche et permettant ainsi les différentes manipulations de l'accouchement. Je ne peux non plus passer sous silence Marie Boivin, née en 1773 et morte en 1841. Une sage-femme diplômée, directrice de l'hôpital général de Poissy, qui inventa un nouveau spéculum et un nouveau pelvimètre, cet instrument qui mesurait les diamètres du bassin. Elle fut aussi l'une des premières à se servir d'un stéthoscope pour écouter le cœur du bébé. Et je ne parle pas de ses ouvrages sur l'accouchement, la grossesse, l'utérus, etc. Mais l'émission arrive à sa fin, et l'évocation de ces 2 seuls noms parmi tant d'autres, prouve que les femmes eurent aussi un rôle fondamental dans l'histoire de l'accouchement. Et pour conclure, je voudrais donner une idée de nouveau combat pour nos furieuses du XXIe siècle. Les forgerons, au moment de la trempe, s'exclament « Je trempe ma lame !» Ne serait-ce pas un chouïa patriarcal ? Je vous laisse sur la chanson « Le forgeron » interprétée par André Claveau.
Quand le soleil se lève à l'horizon, aussitôt mon toit fume, et tout le pays se réveille au son si clair de mon enclume. Forgeant le soc dur et poli pour retourner la bonne terre, je chante ce refrain joli que m'avait appris mon vieux père. Et sonne l'enclume, et jaillit le feu, façonne le fer de ton bras vigoureux. Alors commence un travail de démon, dans la sueur et la flamme, et je ressemble aux damnés qui perdent la perte de leur âme, travaillant dur et sans répit, forgeant la paix après la guerre. Je chante ce refrain joli que m'avait appris mon vieux père. Et sonne l'enclume, et jaillit le feu, façonne le fer de ton bras vigoureux. Quand le soleil se couche à l'horizon, ma forge alors s'éclaire de 1000 feux qui ressemblent au fond aux célestes lumières. Et quand mon bras sera trop lourd, mon gars que berce encore sa mère, forgeron forgera toujours, répétant le chant de son père. et sonne l'enclume, et jaillit le feu, façonne le fer de ton bras vigoureux.
Alors, bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.
Chronique d'un siècle. Une émission culturelle présentée par Jeanne Boursier. Sur Radio Boomerang 89.7 FM.